Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Pour ce quatrième Radio Bark de la 9e saison, nous avons invité à Grand Sud FM Éric Ménassy. Bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour Monsieur le maire de Trèbes, mais également président de l'association des maires de l'Aude, très important et on va y revenir. Vous présidez également le SMAR S2MAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, c'est-à-dire un syndicat mixte dont je n'ai pas besoin de souligner l'importance dans notre département. Et puis vous êtes aussi politiquement membre du Parti Socialiste, vous l'êtes toujours j'imagine, monsieur Ménassy.
Oui, oui.
Donc dans une troisième partie, on évoquera également à la fois votre ressenti sur ce qui se passe aujourd'hui, où vous vous situez dans la gauche et dans l'avenir. Mais commençons par cette ville de Trèbes. Alors c'est la grosse commune de la ceinture carcassonnaise d'une certaine façon, mais c'est une commune aussi qui est très sensible aux aléas aquatiques, justement, puisque vous êtes au confluent d'une part alors de l'Aude, mais également de ce qui descend de la montagne noire,
de l'Orbiel.
Et puis vous avez le canal du Midi, mais lui n'apporte peut-être pas d'excès. Si, ça peut arriver aussi, les débordements du canal.
Malheureusement, en 2018, les excès du canal du Midi ont causé bien des dégâts.
Supplémentaires aux deux autres, oui. Donc en effet, on le voit que c'est une configuration pour cette commune qui
pour
est
le moins atypique,
qui est assez particulière. Et c'est peut-être pas un hasard si le maire de Trèbes est en même temps président du SMAR. Je pense qu'il y a des compétences et des expériences qui se recoupent. Mais à cause, justement, de cette catastrophe de 2018, vous êtes, Éric Ménassy, dans une phase à la fois de démolition et de reconstruction. Alors tout ça prenant du temps. Où en êtes-vous aujourd'hui à Trèbes?
Écoutez, la reconstruction à Trèbes s'inscrit, nous en avons parlé à maintes reprises, dans le temps long. Nous allons terminer dans les mois qui viennent, je pense au milieu de l'année 2023, nous allons terminer les démolitions. Ces démolitions sur la ville de Trèbes sont à la fois un traumatisme pour les familles, bien entendu, mais aussi un traumatisme urbain pour notre cité, puisqu'elle est amputée d'une cinquantaine de maisons en rive droite du fleuve Aude. Ces démolitions ont été réalisées dans le cadre du fonds Barnier et vont nous permettre de pouvoir nous projeter sur un aménagement urbain qui lui aussi s'inscrira dans un temps long. Cet aménagement va s'opérer en deux phases bien distinctes. La première est une phase de travaux, de terrassement, qui vont élargir le lit du fleuve dans sa traversée urbaine. Et dans un deuxième temps, nous allons procéder à des aménagements urbains qui vont embellir cet endroit. La difficulté pour nous est de pouvoir, dans un premier temps, répondre à des problématiques extrêmement précises et strictes en termes de sécurité, et dans un deuxième temps, de pouvoir allier une forme d'esthétisme urbain, parce qu'il est question de ça aussi, dans ce projet de reconstruction.
Oui, c'est l'occasion alors de revoir à la fois le fond, mais sur la forme, certaines choses aussi.
Vous savez, on évoque souvent, depuis 2018, cette funeste année, la notion de résilience. Je crois très sincèrement que la résilience, elle doit s'opérer dans la capacité que nous avons, nous, les hommes et les femmes qui vivons sur ce territoire, à pouvoir nous projeter en vivant avec le poids de ce qui s'est passé. Mais je crois que la résilience, elle est aussi urbaine. Et la résilience urbaine, c'est d'être capable de pouvoir réinventer le territoire avec un risque connu et de pouvoir l'adapter et qu'il redevienne plaisant et que les Trébéens puissent s'approprier ce territoire.
Alors, une petite précision pour les auditeurs qui ne sont pas tout à fait au fait de toutes ces choses administratives. Le fonds Barnier, c'est un fonds d'État qui est adapté à ce genre de situation et qui remédie justement financièrement.
Oui, le fonds Barnier permet de pouvoir faire l'acquisition de biens qui ont été jugés par l'État et par la DDTM sous une forme, comment dire, qu'ils ne peuvent plus être protégés Pour être très clair, sur le territoire carcassonnais, les hauteurs d'eau au-dessus de 2 mètres sur une maison à étage ont fait l'objet du fonds Barnier, parce qu'il était impossible de pouvoir protéger ces maisons.
Mmh. Oui, donc finalement, c'est une grande bouée de secours qui, heureusement, arrive. Tout ce qui a été démoli l'a été dans ce cadre-là.
Oui, bien sûr. Oui, c'est à la fois une sécurité financière pour toutes les familles qui ont pu en bénéficier, mais je crois qu'il faut prendre ce fonds Barnier avec beaucoup de mesures. Vous savez, lorsque on vous annonce que l'État va détruire votre bien, parfois, et bien souvent, malheureusement, toutes les indemnisations du monde ne peuvent pas réparer le préjudice moral.
Oui, il y a un traumatisme, certes financier, mais psychologique, et forcément. Il y a un ressenti qui ne peut pas se traduire par les mots, probablement, d'ailleurs. Oui. À propos, donc, on démolit, on va reconstruire, alors pas à l'identique, vous l'avez suffisamment souligné. On se base sur quelle chose pour dire ceci est constructible à l'avenir, ceci ne le sera pas. Par exemple, les villas qui ont été détruites avenue de Gaulle, qu'est-ce que ça va donner sur le territoire de votre commune, Éric Lénassy?
Bah écoutez, par définition, dès qu'un bien est démoli dans le cadre du fonds Barnier, il est impossible de reconstruire sur la parcelle concernée. C'est une évidence absolue, mais vous faites bien de me le faire préciser. Ensuite, ce bien, à terme, revient en propriété à la ville. Il est incessible et inconstructible. Charge à nous, je vous en ai parlé il y a quelques instants, de mettre en œuvre un aménagement urbain qualitatif dans lequel cette parcelle va s'insérer. C'est un travail de longue haleine parce que il nécessite l'apport de technicité, l'apport de paysagiste, pardon. Nous avons une ambition urbaine sur la ville de Trèbes. Cette ambition urbaine, elle doit se décliner dans le temps à travers les études paysagères qui sont faites, à travers le risque qui est réel, mais aussi à travers un partage avec les habitants. Je crois que c'est important de pouvoir, dans les mois qui viennent, et nous allons initier ces réunions à partir du mois de janvier 2023, il est important de pouvoir partager avec les habitants le devenir urbain de la cité.
Alors, pour l'information des Trébéens, justement, concrètement, qu'est-ce que ça peut être en l'état des jardins publics ou ce genre de choses-là?
Oui, nous envisageons à terme une promenade en bordure du fleuve Aude, une promenade sur le modèle très réussi d'ailleurs de la promenade que nous avons sur les quais du canal du Midi. À l'inverse de la promenade du canal du Midi, la promenade qui sera mise en place sur le fleuve sera une promenade submersible, puisque nous avons bien sûr ce risque d'inondation qui est prégnant sur le site.
Et qui restera.
Qui restera, bien entendu. Et ensuite, sur les autres parcelles, plusieurs pistes sont à creuser, à la fois des jardins familiaux, à la fois des jardins publics. Je crois que reverdir une ville aujourd'hui n'est plus une option, c'est une nécessité. Et nous allons, dans les années à venir, nous attacher à maintenir ce cap.
Oui. À propos de jardins, d'ailleurs, effectivement, il en existe déjà, il en existait. Il y a des jardins qui s'appellent le jardin Vauban dans votre commune. La presse en faisait écho récemment. Et il y avait un problème qui est, paraît-il, en train de se résoudre. Alors, pour les Trébéens, ça veut dire quoi?
Les jardins familiaux du pont de Vauban ont une vraie histoire sur la ville de Trèbes. C'est une quarantaine de parcelles. Ces jardins étaient menacés au lendemain des inondations de 2018, d'abord par une problématique toujours prégnante, la problématique de la pollution de l'Orbiel. Mais ce sujet, volontairement, je vais éviter d'en parler, puisqu'aujourd'hui, les dernières analyses que nous avons à notre possession depuis quelques mois déjà permettent aux jardiniers amateurs de pouvoir cultivés sur ces parcelles-là. Et la deuxième problématique était des travaux d'aménagement qui devaient, dans les années à venir, là aussi élargir le lit de la rivière Orbiel. Ce n'est plus le cas. L'élargissement se fera en rive droite et non plus en rive gauche. Donc les jardins vont pouvoir continuer à vivre sur leur emplacement. Je vous l'ai dit, c'est une quarantaine de parcelles. Et nous avons laissé le choix aux propriétaires. Celles et ceux qui souhaitent continuer à cultiver ces parcelles le pourront. Et celles et ceux qui souhaitent s'en séparer pour diverses raisons, la mairie fera acquisition de ces parcelles. Je pense que les transactions pourront être réalisées avant la fin de l'année ou au tout début de l'année 2023 ou plus tard.
Mais symboliquement, c'est un beau morceau de la vie trébéenne finalement.
Ah oui, bien sûr, je vous l'ai dit. C'est important culturellement, historiquement, c'est une partie de Trèbes, ces jardins.
Alors, historiquement, à propos d'histoire, pourquoi Vauban ? Vauban n'a pas construit de fortification à Trèbes, que je sache.
Et si ?
Si.
Le pont-canal s'appelle le pont de Vauban.
Ah, le pont-canal,
oui. Le pont-canal. Et donc, Vauban a réalisé cet ouvrage sur la ville de Trèbes.
Oui, oui. À propos de construction et de reconstruction, bon, il y a le fonds Barnier, vous l'avez précisé, Éric Ménassy, mais de temps en temps, vous avez besoin aussi de faire appel à des financements extérieurs. La presse faisait état, par exemple, il n'y a pas très longtemps, de la reconstruction de la piscine municipale, qui, elle aussi, avait été dévastée. Et vous allez solliciter, dans ces cas-là, d'autres financements, par exemple, celui de l'agglo.
Trois constructions ont été dévastées, principalement, je parle de constructions publiques, pendant... à la suite des inondations, la piscine, bien sûr, les écoles maternelles et primaires, et nous nous inscrivons dans une recherche de cofinancement. Ces cofinancements, vous l'avez dit, c'est l'État, c'est la région, c'est le département, et l'agglo, bien sûr, nous accompagne dans ces projets.
Voilà. On va marquer une première pause, Éric Ménassy. On se retrouve tout de suite après pour évoquer alors d'autres de vos casquettes, et notamment celle de l'association des maires de l'Aude.